Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le cinéaste Régis Varnier publie son premier roman, Les Prix d'Excellence. Une fresque sentimentale et historique qu'on découvre dans un instant avec Stéphane Boutsock. Et rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des exemplaires dédicacés de ce premier roman. Après avoir dit adieu à la musique il y a 10 ans, Nana Mouskouri est donc de retour avec un album de reprise et une série de concerts en France. À suivre ses confidences au micro de Steven Bellery. Jean-Paul II, Romy Schneider, le roi Hassan II ou encore Marlène Dietrich avaient tous un point commun, le bottier français Raymond Massaro. Aujourd'hui âgé de 88 ans, il publie un ouvrage intitulé « Secrets de bottier ». Il a raconté à Monique Younes ses anecdotes les plus croustillantes. Et puis nous n'oublierons pas, bien entendu, notre plateau télé du week-end, préparé pour nous par Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
C'est toujours émouvant de voir naître un écrivain, et quand cet écrivain est aussi un grand cinéaste, eh ben c'est encore plus intéressant. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez lu pour nous Les Prix d'Excellence, c'est donc le premier roman de Régis Varnier.
Oui, un livre à l'image du cinéma, du réalisateur d'Indochine, de La Femme de ma vie ou d'Est Ouest, une fresque amoureuse où les sentiments croisent les grandes heures de notre histoire contemporaine. Les Prix d'Excellence racontent sur une trentaine d'années les destins croisés puis mêlés de Mathilde et Georges. Elle est la fille d'industriels du Nord, reniée par sa famille, passionnée de cinéma, qui deviendra scénariste. Lui est l'enfant d'origine asiatique adopté par des petits commerçants, un surdoué qui deviendra un pionnier de la science. Leur jeunesse, leurs amours, leurs voyages, leur carrière nourrissent un livre dense, sensuel, j'y reviendrai. Mais d'abord, pourquoi venir à l'écriture à bientôt 70 ans? J'ai posé la question à Régis Varnier.
J'étais certainement très bien dans le rôle de cinéaste, dans le cinéma, qui était quand même qui est toujours ma passion d'ailleurs. Mais à un stade, alors il n'y a pas très longtemps, j'avais un ou deux films en tête, ou une ou deux histoires en tête, et je ne sais pas si c'était des films. Et puis je me suis dit, développe-les, en me donnant cette liberté de ne pas réfléchir à, j'aime pas ce mot, mais à la faisabilité. Est-ce qu'on va pouvoir les produire? Qui va les jouer? Une telle serait formidable, est-ce qu'elle va être libre? Et puis comment on fait avec des personnages qui commencent à 17 ans pour l'une, un an et demi pour l'autre, qu'on les amène à 50 et à 30 ans respectivement? Et je me suis dit, te pose pas ces questions-là, écris. Alors est-ce que tu es capable d'écrire un bouquin? C'est le moment, parce que tu as envie de le faire. Est-ce que tu iras au bout? Là, ça a été oui, je l'ai envoyé. Est-ce que quelqu'un va le prendre? Ça a été oui. Et maintenant, le numéro 3, est-ce que quelqu'un va le lire? Voilà.
Alors, réponse évidemment dans quelques semaines à cette question. Stéphane, le cinéma de Régis Varnier est aussi marqué par l'exotisme de ses décors. Est-ce qu'on retrouve cela dans son roman?
Oui, prenez votre passeport en commençant le bouquin. Vietnam, nord de la France, Paris, Ghana, Corée du Nord et du Sud, San Francisco, Suisse, Albanie ou Berlin. Les Prix d'Excellence, c'est aussi une map monde. Et Régis Varnier a adoré s'y balader.
C'est pas étonnant, moi je suis un grand voyageur. Avant de faire du cinéma, quand j'étais étudiant, je partais au bout du monde en stop. À l'époque, personne n'avait peur. Les stoppeurs n'avaient pas peur des preneurs, et les preneurs n'avaient pas peur des stoppeurs. Voilà. Dès que j'ai eu l'occasion de me barrer, alors bon, Indochine, une femme française s'est tournée en Syrie, en Allemagne, Est-Ouest s'est tournée en Ukraine, en Bulgarie. Mais j'aime ça. J'ai aimé faire la promotion de ces films-là au bout du monde. J'apprends, j'écoute, je regarde. J'ai tourné le temps des aveux au Cambodge, Indochine, au Vietnam et en Malaisie, Man to Man en Afrique du Sud et en Écosse. Mais forcément, à un moment, ça s'imprime, quoi.
Alors, il y a une chose qui est frappante quand on lit ces Prix d'Excellence, c'est le style très cru, très cul aussi, par moments, des scènes décrivant la vie sentimentale et amoureuse de Mathilde, et plus particulièrement de Georges, d'ailleurs, dont les attirances vont de la femme mûre à un de ses camarades, jeune étudiant coréen, en passant par quelques ravissantes ingénues. Si les films de Régis Varnier ont souvent été sensuels, ils ne nous avaient pas habitués à ce côté très sexuel.
Oui, parce que je suis seul avec les mots et que je leur fais confiance. Alors que sur un plateau, par exemple, si on parle de scène érotique ou de scène d'amour ou de scène de cul, comme vous dites, sur un plateau, il faut amener des acteurs à la détente, à accepter des choses, avec une équipe qui est un peu gênée, et peut-être aussi un peu voyeuse. Et c'est compliqué à plusieurs d'arriver à créer une sensation à la fois sentimentale, physique, sensuelle, sexuelle, dans ces conditions-là, je veux dire, avec des lumières, des mouvements qui sont faux, voilà. Tandis que là, les mots, ils sont ce qu'ils sont, ils disent, c'est vrai. Mais ça m'a paru beaucoup plus facile d'écrire une scène érotique que de la filmer.
Puisqu'on parle de cinéma, j'imagine que ce premier roman, il fait largement référence.
Bah oui, parce que Mathilde, je vous le disais, va devenir scénariste et son fils cinéaste. Varnier ponctue son livre de clin d'œil aux films des autres et aux siens. Il fait notamment escale à Cannes à la fin des années 90, quand le festival avait un petit coup de moins bien, colonisé par la télévision. Puisqu'on parle de cinéma, les deux derniers films de Régis Varnier, La ligne droite et Le temps des aveux, n'ont pas rencontré leur public, comme on dit. A-t-il maintenant l'envie de revenir derrière une caméra ?
Ce qui m'a aidé à écrire ce roman, c'est que j'ai eu quelques propositions ou des approches pour des films, mais rien qui m'aurait emmené à arrêter l'écriture de ce livre. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, moi, j'essaierais bien peut-être un jour de faire le film que Mathilde fait, qui s'appelle Amoureux, que je lui ai inventé, pour lequel elle est primée à Cannes. Mais je trouve ça vachement intéressant, le film qu'elle fait. Ce qui se passe en une journée, tout ça. Je trouve ça. Mais je me suis dit, tiens, et si un jour je me frottais, ça m'amuserait. Et puis, il y a une autre chose qui m'amuserait beaucoup, une fantaisie, ce serait de démarrer un scénario qui commencerait là où finit le roman. De faire la suite, parce que ça reste ouvert, mais de la faire en film. Mais vous imaginez, pour une actrice, je lui dis, le personnage, bah, si tu veux la connaître, t'as 430 pages de notes.
Projet évidemment intéressant. En attendant, c'est donc le premier roman de Régis Varnier. Il est intitulé Les Prix d'Excellence. Il vient de sortir chez Grasset. Nous vous l'offrons ce matin. Et pour gagner, il faut répondre à la question posée par Stéphane.
Comment s'appellent les héros du roman ? Est-ce Mathilde et Georges ou Eliane et Jean-Baptiste ?
Réponse au 32-10.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
À présent, elle a vendu plus de 300 millions de disques en près de 60 ans de carrière. Nana Mouskouri est de retour. Elle repart en tournée et publie aujourd'hui un album de reprise intitulé Forever Young. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré la chanteuse grecque.
Oui, elle revisite 15 chansons qui ont marqué sa vie, d'Amy Winehouse à Leonard Cohen, de Dalida à Bob Dylan. Première question à Nana Mouskouri, pourquoi enregistrer des reprises ?
Les années passent, évidemment, avec une grande joie. C'est la justice. Les années passent pour moi. J'ai dit, je ne peux pas apporter à la musique, tellement la nouveauté des jeunes, qu'il y a les jeunes qui amènent la musique plus loin. C'est pas moi. Moi, j'ai amené mon temps un tout petit peu plus loin jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, si je choisissais de chanter des chansons des derniers 50 ans. Et l'idée m'est venue entre la chanson de Charles Aznavour qui chante sa jeunesse, et puis Bob Dylan qui dit Forever Young. Je pense que c'était des chansons que je n'ai pas chantées jusqu'à présent. Une chose, ces chansons, elles ne sont pas négatives. C'est un moyen vraiment de penser jeune et de rester au cœur au moins. Ce n'est pas grave si la figure vieillit ou bien le corps vieillit. Mais quand tu as le cœur jeune, tu as beaucoup plus de force.
Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse.
Nana Mouskouri a publié son premier album en 1960, Forever Young, et son 134e enregistrement, le 42e en français. L'artiste a dédié sa vie à la musique, l'occasion d'évoquer avec elle sa mélomanie.
Music was my first love, it will be my last. Oui, c'est vrai, la musique, c'était mon premier amour. Mon papa était projectionniste au cinéma et j'écoutais évidemment beaucoup des chansons à l'époque avec les films. Je montais toujours sur la scène et je chantais tout ce que je savais à chanter et je rêvais. Mais je ne savais pas ce que ça veut dire chanteuse à l'époque, j'étais petite. Et en grandissant, les gens ils ont commencé à me remarquer, mes parents ils m'ont mis au conservatoire pour étudier. Donc la musique est en moi un guide, une force. Non seulement j'aime la musique, je la respecte beaucoup, mais j'ai appris beaucoup de choses. Par les chansons, parce que les textes, je crois qu'ils sont très importants.
Vous avez vendu plus de 300 millions de disques, est un chiffre colossal.
Oui, mais c'est 60 ans. Hein.
Est-ce qu'il y a une pointe de fierté quand même en vous ?
Oh, bien sûr, je suis fière de moi, mais je suis fière aussi du public qui m'a suivi, parce que rien n'est acquis. Donc c'est un partage, la musique. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Start to make it better.
Alors Nana Mouskouri Stevens, c'est évidemment une voix singulière, on l'entend, mais c'est aussi un look, j'ai envie de vous dire, éternel.
Hein. Ah oui, notamment ses grosses lunettes, une monture noire qu'elle porte depuis des décennies et qui a forgé sa légende.
Mon look, c'était des grands complexes. Vous savez, je détestais mes lunettes au début. Et mon docteur m'avait dit, si vous portez vos lunettes tout le temps, ça va aller mieux pour votre myopie. Évidemment, au début, tout le monde se moquait de moi avec les lunettes. Je ne voulais pas les mettre. Et puis, je pensais qu'est-ce qu'il me disait au docteur. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je vais les laisser. Quelque part, ça m'a protégé tous mes complexes. Parce que je croyais que derrière mes lunettes, j'étais cachée. Je n'étais pas une fille courageuse. J'ai beaucoup de peur, des hésitations, mais avec mes lunettes et la musique, je me sentais forte. En même temps, ça me faisait croire en moi-même.
Nana Mouskouri a chanté dans le monde entier, enregistré des disques en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et bien sûr en grec. Puis en 2008, elle a fait ses adieux, une décision qu'elle a vite regrettée.
Quand je suis arrivée à 70 ans, je me disais, Marlene Dietrich, elle s'est arrêtée, je l'ai vue la dernière fois à 73 à l'Espagne. Cartin, et elle était magnifique, mais elle s'est arrêtée quand même. Et alors je me disais, bon, il faut que je m'arrête un jour, je vais dire au revoir à tout le monde, et j'ai arrêté. Et je disais à ce moment-là, oui, je vais mettre à la peinture parce que j'aime bien dessiner. Quand je chantais plus, je faisais ni voyage, je n'avais pas le courage d'écouter la musique et j'étais triste.
Vous vous êtes ennuyée pendant vos mois de retraite ?
Ouais, je savais pas quoi faire. Mais je suis une chanteuse, j'ai besoin de chanter.
Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère.
Nana Mouskouri a lancé la semaine dernière sa toute nouvelle tournée, Steven.
Oui, elle chantera notamment Salle Pleyel à Paris le 8 mars, le 16 mars à Bordeaux ou encore le 24 mars à Lille. Pourquoi aime-t-elle toujours autant la scène à 83 ans ? Réponse de Nana.
C'est l'endroit que je préfère. C'est un endroit que malgré qu'on est entouré par des gens, c'est un moment de solitude. Mais c'est un moment aussi de vérité.
Comment vous gardez votre voix en forme ?
La base, c'est que j'ai très envie de chanter. Et puis, je fais quand même attention. La voix, il faut bien dormir aussi. Il ne faut pas exagérer. Et j'ai eu la chance d'avoir une discipline parce que j'ai une voix, elle a des problèmes, il y a une corde qui est plus épaisse que l'autre. C'est pour ça que les graves sont enroués, après ça devient clair. Alors je travaille sur ça. La seule chose que je fais, c'est de travailler un tout petit peu les passages de mes notes d'en bas à haut. C'est des exercices qui sont bons pour la respiration. J'ai fait de petites choses quand même.
Nana Mouskouri est Forever Young. L'album sort aujourd'hui et Nana m'a confié qu'elle n'avait aucune envie d'arrêter à présent. Je chanterai jusqu'au bout.
Des confidences signées Steven Bellery. Alors là, ça va pas être facile d'enchaîner parce qu'il nous faut un jingle un peu hard.
Oh.
Ça,
ah oui.
Ça me fait mal pour Nana. Enfin bon, on va parler de nous.
Le jingle plus ma voix, ça fait beaucoup.
Non, votre voix, c'est un délice.
Bien sûr.
Voilà. Ce sont donc les audiences avec Médiamétrie pour la télévision de la veille.
Eh bien, écoutez, Jean-Luc Reichmann va être content parce que Léo Mattei est nettement en tête avec 5 800 000 téléspectateurs et 25% du public. Par les temps qui courent, c'est un vrai succès. Et le film Jack Reacher sur la 3, qui est deuxième, vous voyez, a fait moins de 3 100 000 téléspectateurs et 15% du public.
Pourtant, c'est un bon
sur
film,
la 3.
Hein,
oui. Et alors, Le Territoire des Loups sur C8, côté TNT, bah, c'est ce qui est largement en tête, 740 000 téléspectateurs. C8, oui.
On en vient à notre soirée télévisée.
Oui.
Un événement ce soir, TF1 nous fait entrer dans le cerveau des mentalistes.
Oui, et en fait, ce sont surtout les mentalistes qui entrent dans le nôtre ce soir et dans celui de nombreuses personnalités. Et c'est agaçant, parce que contrairement à l'hypnose, il y a un truc. Mais il est indécelable entre manipulation mentale, lecture de pensée, télépathie. C'est 2h30, sidérante, sidérale. Et c'est le producteur Arthur qui en parle le mieux.
TF1 a souhaité faire un grand prime time autour du mentalisme et nous avons demandé à une trentaine de célébrités de se prêter au jeu, de Danny Boone à Lynn Renault, en passant par Alexandra Lamy, Ryan Bensetti et Guillaume de Tonquédec, Thomas Sisley, une pléiade d'artistes qui se sont prêtés au mentalisme et qui ont été, comme nous tous en regardant l'émission, et vous je l'espère, en état de choc tellement c'est surréaliste. C'est très très bluffant. Deux personnalités, Victor Vincent et Fabien Olicard, vont rendre dingues à la fois les téléspectateurs, mais aussi les stars sur le plateau et le public. D'ailleurs, vous, chez vous, vous allez pouvoir participer à des numéros de mentalisme. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on va vous donner des trucs pour que vous puissiez apprendre quelques numéros de mentalisme pour épater vos potes à l'école ou au bureau.
Exactement. Lynn Renault et Camille Lacour étaient partants. Ils n'en sont pas encore revenus. Oui, je vous laisse découvrir. Arthur remplit d'ailleurs l'espace parce qu'il a ensuite vendredi tout est permis avec notre ami Bruno Guillon et le reste de la bande.
Moi, je les appelle les sociétaires. Et il y a une vingtaine d'artistes qui participent en toute confiance à tous nos programmes. Certains le font parce qu'ils s'éclatent avec nous, d'autres parce qu'on va les produire, comme Jarry qui va avoir sa propre émission sur TF1 de deuxième partie de soirée. Nous tournons au mois de février, je produis Jarry maintenant. On avait fait un pilote qui a beaucoup plu à la chaîne. Et la morale de tout ça, c'est que cette année, j'aurais lancé pratiquement 6 nouveaux formats, dont 5 en prime time. Il n'y a aucun exemple de diffuseur au monde qui lance 6 nouveaux formats maison, c'est-à-dire français, pas des formats importés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant. On reproche souvent à TF1 de ne pas être très créatif. Franchement, moi, j'ai une place de rêve sur cette chaîne, puisque chaque année, je lance des formats. Et tous ceux que vous venez de voir sont déjà vendus dans le monde entier.
Voilà, mentaliste dans la tête des stars, 21h, TF1, c'est bluffant, on est bluffé. Il fait même semblant de rater des numéros, il est exaspérant.
Il paraît que vous avez eu un coup de foudre inattendu ce soir.
Ah ben oui, j'étais à 23h30 à RTL quand l'attaché de presse du divertissement de France 3 m'a envoyé l'émission 300 cœurs chantent le meilleur des chansons d'amour et ça m'a galvanisé. C'est pas tout réussi, mais tout m'a intéressé. Les tubes sont soit interprétés par leurs auteurs, comme Daniel Guichard avec Je t'aime, tu vois, j'adore cette chanson, mais le plus souvent c'est la jeune garde qui donne de la voix, comme Claudio Capeo sur l'une de mes 10 chansons préférées. Salut les amoureux de Joe Dassin.
Voilà, t'as des sonorités, t'as toutes ces voix qui se mélangent et qui apportent de la force en fait au titre. Ça fait du bien quoi. Waouh!
On sait que l'écran se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Vous l'échappez belle parce que je la sais toute. Léger reproche, certaines chorales étouffent un peu les voix. Par exemple, Chimène Badi avec Viens de Marie Laforêt, ça c'est dommage. Mais qu'est-ce que c'est chouette quand la chorale de Sciences Po accompagne Claire Kaim, Rock Voisine et Corneille reprenant Nat King Cole.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see.
Ah oui, c'est mignon,
c'est joli comme tout.
C'est Claire Kim, oui. Et il y a aussi, inévitable, M. Pokora avec My Way.
La chorale, ça apporte quelque chose d'un peu plus solennel et peut-être un peu plus profond, j'ai envie de dire.
When I'm bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up.
Allez. Et histoire d'être définitivement réveillé, allez, on s'offre un petit air très brillant.
Wise men say only fools rush in, 'cause I can't help falling in love.
Voilà, c'est Danny Briand.
Ah, j'allais dire, je connaissais pas, c'est Danny Briand.
Voilà, l'œil est parfois morne, mais la voix, elle ne l'est pas.
Alors, à propos de musique, n'oublions pas The Voice, demain sur TF1.
Oui, suivi par 6 400 000 téléspectateurs samedi dernier, avec des voix magnifiques. Mais moi, j'ai trouvé mon chouchou, il s'appelle Edouard Edouard. Je suppose que c'est un nom d'emprunt, hein. Ses parents n'auraient pas osé. Sa forte personnalité m'a enchantée, et lui, il chantait du Nino Ferrer.
Mais si tu m'aimes encore. Mais si tu m'aimes encore.
Ça, c'est Zazie qui se retourne. Ah, les trois autres vont suivre, mais j'adore ce type.
Oui, je vais. Voilà. Le personnage est amusant, avec son petit costume trois pièces.
Voilà. Oui. Et n'oubliez pas, dimanche sur la 3, le retour de Brokenwood, 4e saison. Personne ne misait pourtant sur cette série néo-zélandaise ayant pour héros un flic dépressif et passéiste, ronchon et chonchon d'avoir été muté d'Auckland à Brokenwood.
Ronchon, c'est pour les petits chatons.
Ouais, oui, voilà. Ronchon et chonchon d'avoir été muté donc d'Auckland à Brokenwood. Ce soir, un homme tombe du ciel. Non, au sens propre, c'est un fou de chute libre qui a fait le grand saut. Accident, meurtre, faut voir. Faut surtout voir à 21h sur la 3 dimanche. C'est lent, faut le savoir, c'est lent, mais et ça se mérite, quoi.
Ah, vous êtes vendeuse.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Monique Younes, oui. Vous nous parlez ce matin du bottier le plus célèbre au monde.
Oui, il s'appelle Raymond Massaro, une célébrité de la jet set, car toutes les têtes couronnées du monde, toutes les stars du showbiz, les grandes fortunes de la City lui ont commandé un jour ou l'autre des chaussures sur mesure. Raymond Massaro, aujourd'hui âgé de 88 ans, se souvient, dans un livre sobrement intitulé « Secret de bottier », de ces années où il était à l'ouvrage avec son atelier aux deux rues de la Paix. Il me faudrait plus d'une journée d'antenne pour vous faire le récit de ces rencontres. Je vous ai mitonné une petite sélection en commençant par Hassan II, le roi du Maroc, qui lui envoie son avion privé pour le faire venir dans son palais à Rabat, où Raymond Massaro est accueilli par une odeur d'eucalyptus enivrante.
Et j'attends dans une grande pièce, on me fait rentrer, on me dit d'enlever les chaussures. C'est là que j'ai compris pourquoi dans les pays arabes on fait des mocassins et pas des chaussures à lacets. Et j'attends tout seul et je me demande qu'est-ce qui va arriver. Et comme on dirait vulgairement, j'ai un peu peur. Je suis tout seul là et je vois les servantes qui arrivent sans un mot, qui posent des souliers. Combien je dois dire ? 1000 paires, à peu près. Et le roi, comme au théâtre, rentre avec quelqu'un et il me dit « Je suis très content des échantillons que vous m'avez faits. Maintenant, on va regarder. » Et on a passé les chaussures comme une revue militaire. Ça, j'aime. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime moins. Ça, jamais. On a fait les commentaires. Il m'a dit « Maintenant, vous m'en faites 12 paires pour la fin du mois. » Hassan II m'a beaucoup appris par ses caprices de couleurs qu'on n'avait pas l'habitude. Puis je lui apportais un catalogue de dessins. On se couchait par terre sur le tapis tous les deux. On choisissait ensemble. Et puis, à un moment donné, je lui expliquais qu'un petit bord anglais, c'était un petit rouloté. Et la fois d'après, comme il n'oubliait pas, il me disait « À ce modèle, si on faisait un petit bord anglais ?» J'appréciais beaucoup, moi, parce qu'il était un peu, j'allais dire entre guillemets, malicieux. Et il voulait montrer qu'il était au courant et qu'il connaissait le métier.
Oui, il est charmant. Raymond Massaro ne voulait pas devenir bottier.
Mais il ne voulait surtout pas faire le même métier que son père et son grand-père, qui a fondé la maison en 1894. Raymond Massaro rêvait de devenir prof d'histoire ou ingénieur. Et il a fini par rentrer à l'école de la chaussure. Et une fois son diplôme en poche, il a commencé chez son père, au bas de l'échelle.
J'ai fait le livreur, après la guerre, donc en 47. Et je vais au Plaza livrer ma paire à peu près 600 francs de l'époque, 700 francs. Et la cliente me donne 500 francs pour boire. Et à 5 heures, elle me demande autre chose. Je repars et j'ai encore 500 francs. J'avais gagné une année de salaire à l'époque. Et je demande à mon père à 6h30, avant de fermer, il n'y a pas une troisième paire à porter. Voilà, il me dit non, c'est terminé pour aujourd'hui.
La malice de Raymond Massaro et la passion du métier de bottier lui est venue quelques années plus tard, quand il fait la rencontre de Coco Chanel, qui lui a dit un jour « Je veux un soulier qui allonge la jambe et raccourcit le pied ».
Elle dit cette phrase-là exactement, et surtout ouvert derrière, parce que n'oubliez pas, le pied des femmes gonfle un petit peu quand la bride est ouverte, donc on laisse l'arrière ouvert, le pied respire. C'était sa marotte. On dit qu'elle était méchante, c'est pas vrai. Coco Chanel, comme on dit vulgairement, pétait le feu. Elle dessinait pas, vous le savez. Donc c'était un échange de conversation dans ce qu'elle voulait, pour elle-même personnellement, et pour les collections couture, parce qu'elle ne portait jamais des modèles de collection. Donc elle avait son modèle à elle, spécial. Et vous savez que Chanel avait une prescience extraordinaire, parce qu'à l'époque, les chaussures étaient roses, comme la robe rose, comme le sac rose. Chanel arrive, révolutionne tout, et dit « chaussures beige et noire, beige et bleu, beige et marron, beige et or, 4 paires dans les valises, on fait le tour du monde ».
Est-ce que Coco Chanel a été la rencontre professionnelle la plus importante de la vie de Raymond Massaro ?
Ben oui, il le raconte d'ailleurs avec beaucoup d'émotion dans son livre, de même qu'il raconte avec beaucoup d'affection le charme solaire de Romy Schneider, qui a fait chez lui, rue de la Paix, la connaissance de Marlène Dietrich.
Marlène, c'est une allure extraordinaire. Une démarche. À 60 ans passés, elle marchait dans le magasin. Moi, j'admirais sa démarche. En plus, son organisation. Elle habitait avenue Montaigne. Quand on rentrait chez elle, elle avait tous les post-it tout le long de la porte. Passer chez le teinturier, passer chez Massaro, 8h, 9h, 10h, 11h. C'était une Allemande. La vie était organisée d'avance.
Les chaussures avec la boule de diamant qui orne le talon de Marlène Dietrich est reproduite dans le livre de Raymond Massaro. Sont moins impressionnantes d'ailleurs que la mule rouge que Raymond a réalisée à Jean-Paul II, ou la reconstitution du soulier du sacre de Napoléon Ier, ou même la paire de sandales que Massaro a imaginée pour le jubilé de la maison en 1999.
Je l'ai fait avec des rubis, des pierres, et je me suis fait plaisir. Je l'ai vendu, 100 millions à l'époque, je vous dirai pas à qui, mais ça a été une fierté pour moi de réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Parce que je suis sur commande, moi. Les gens, ce qui est normal, me demandent ce qu'ils ont envie, ce qui leur plaît. Donc j'obéis, entre guillemets. Là, je me suis fait plaisir.
On écouterait Raymond Massaro pendant des heures. Un homme délicieux, inventif, qui a donné un coup de fraîcheur au métier de bottier par sa fantaisie, l'excellence de son travail et la rigueur de son atelier. Au Japon, il serait sacré trésor national. En France, il est maître d'art. Cela lui suffit. Et maintenant, en couronnement de cette fabuleuse carrière, ce livre, Secrets de bottier, édité par les éditions Laurence Massaro, sa fille. Un livre qui ne coûte pas le prix d'une paire de lacets, 25 euros.
Merci beaucoup.
Et puis il y a la mule du pape. Donc,
oui, la mule du pape, c'est pas tout le monde qui arrive à la faire rentrer dans un livre.
Et il a beaucoup de talons, évidemment.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Merci beaucoup à toute l'équipe. On retrouve tout de suite Julien Courbet. Alors Julien, vous savez, je suis en train de feuilleter le livre magnifique.
Oui.
Ah non, oh là là.
Mais oui,
une j'ai un autre livre, pardonnez-nous, pardonnez-moi. Comment s'appelle les héros du roman Mathilde et Georges, où il y a des Jean-Baptiste?
Alors,
le livre
Jean-Baptiste, c'était les héros du film Indochine. Donc les héros du bouquin de Régis, c'est Mathilde et Georges.
Merci Stéphane.
Je vous en prie.
Donc non, je feuilletais un autre ouvrage, celui de Raymond Massaro, Secrets de bottier, et je vais vous dire.
De bottier.
Oui, les mules du pape, je crois que ça vous irait très bien pour vos activités. Le soir à la télé, le matin.
Tenue également.
Ben oui.
Le petit chapeau, quand il y a du soleil. Quand
c'est ouvert, on les retire facilement et c'est très confortable. Très
et puis je prends la papa mobile aussi, parce que garer sa papa mobile en double fil devant le Macumba, je peux te dire que. Je peux te dire qu'après, ils se battent pour monter dedans. Hein.
Oh ben oui, pour le Macumba quand même. Hein. Je vous envoie une petite photo et vous me dites si vous voulez que je vous fasse une commande.
Vous écoutez RTL.